Radio Okapi.
Le journal Gisèle Cage.
Bonsoir à toutes et à tous et merci de passer votre soirée avec nous. On fait le point sur les infos du jour, celles qui touchent à votre quotidien. Restez branchés, le journal commence. Béni des femmes qui résistent au cœur de l'insécurité. En ce 8 mars, focus sur ces femmes du Nord Kivu qui, malgré violences, menaces et déplacements forcés, continuent de se battre pour leur dignité et leur avenir. Ramadan au Maniema, grâce à des prix qui n'échangent presque pas sur le marché, les familles peuvent rompre le jeûne sans stress. Les produits essentiels restent accessibles et chaque soir, les tables se préparent dans le calme, la solidarité et surtout la sérénité. Nord Kivu, 30 ans de lutte pour le droit des femmes. Isabelle Pendeza, présidente du CAFED, est notre invitée pour parler engagement, résilience et place des femmes dans le processus de paix. En cette journée internationale des droits des femmes, nos pensées se tournent vers Béni, au Nord Kivu, où tant de femmes affrontent encore chaque jour les conséquences d'une insécurité persistante. Dans cette région meurtrie par les conflits armés, elles vivent entre violence, manque de ressources, menaces constantes et déplacements forcés. Leur autonomie, leur dignité, leur épanouissement en sont profondément affectés et pourtant elles demeurent debout. Leur courage, force, le respect, leur résilience impose le silence. Martial Papi Moukeba nous amène à la rencontre de ces femmes dont la force, malgré les épreuves, éclaire cette journée dédiée à leurs droits.
Faire face aux conflits, aux violences armées et aux déplacements forcés, c'est le quotidien des femmes de Béni depuis plus d'une décennie. Cette situation affecte leur vie quotidienne et leur autonomie, comme le souligne Noëlla Mouliouavio, coordonnatrice du collectif des femmes pour les vulnérables Cafez-vous de Béni.
La femme du territoire de Béni ne s'épanouit pas parce qu'elle est menacée. Du jour au jour, elle s'attaque aux incursions nocturnes. C'est plus la femme rurale qui est tellement pauvre parce qu'elle n'a pas accès aux chats. Elle est menacée par la guerre et par les groupes armés. Et d'ailleurs, c'est cette femme qui est plus victime de violences basées sur le genre.
Les conséquences ne se limitent pas à l'économie. Elles touchent aussi leur santé, éducation et bien-être psychologique, comme le rappelle Ange Maliro de l'organisation Tendolaro.
Il y a des problèmes psychologiques liés à l'insécurité, parce qu'ils ont perdu leurs moyens de ressources. Mais aussi malgré ça, autour de nous, il y a des centres de santé qui ont été incendiés, des hôpitaux. Il y a les femmes, comment ils accouchent, comment ils suivent les soins, ça devient compliqué.
Malgré ces difficultés, les femmes de Béni font preuve d'une grande résilience. Béni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
Et toujours dans l'est du pays, une autre réalité interpelle. Au Nord Kivu, l'insécurité chronique ne brise pas seulement des vies, elle étouffe aussi l'espoir d'une autonomie financière pour des milliers de femmes. C'est le constat des organisations féminines de la province. Pour elles, malgré le courage et la détermination des femmes du Nord Kivu, chaque progrès est effacé par un nouveau cycle de violence. Les femmes leaders, elles, tirent la sonnette d'alarme. Sans une paix durable, le fruit du travail des femmes continue d'être réduit à néant. Rosalie Zawadi nous en dit plus.
Dans de nombreux villages du Nord Kivu, des femmes qui ont mis des années à bâtir des projets voient leurs efforts anéantis en l'espace de quelques heures. Le scénario est souvent le même. Des hommes armés surgissent dans les villages, incendient des maisons, pillent les bétails et sèment la mort. Ceux qui parviennent à s'échapper tentent de reconstruire leur vie dès qu'il n'accalmit ses profils. Mais l'espoir est souvent de courte durée, car l'insécurité finit toujours par les rattraper. Pour Emmanuela Vasikia de l'organisation Action des volontaires pour la solidarité et le développement, ces cycles de violences qui durent depuis des décennies épuisent.
Tous les jours, avec des déplacements massifs, ça ne nous permet pas d'avoir des femmes qui ont l'ancrage, parce que nous sommes un peu découragés, parce qu'au fil du temps, quand nous travaillons sur les capacités de femmes, mais après un mois, on va voir les femmes sont déplacées, ou soit les femmes, quand on les travaille avec eux dans le cadre de leur autonomisation, ça nous décourage beaucoup, parce que tous les jours, il y a des crises, on a besoin de la paix.
En ce 8 mars, les femmes leaders du Nord Kivu rappellent que sans une vraie paix, le développement et l'autonomisation des femmes resteront des vains mots dans une province où tout est sans cesse à refaire. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Et dans un tout autre registre, place maintenant à la jeunesse. À Kinshasa, le conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu, conduit par son président Pascal Tambouka, a réuni ce samedi 7 mars à la Maison de France dans la commune de la Gombe des autorités politiques et des jeunes leaders autour d'un forum consacré à la paix au Kivu et à la cohésion nationale. Parmi les invités de marque, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki. Objectif de cette rencontre, encourager un engagement responsable de la jeunesse et renforcer le dialogue avec les institutions dans un contexte national où les enjeux de stabilité restent majeurs. Les détails avec Christian Makasinga et Ella Chimbalou.
Dans la salle de conférence, l'atmosphère est studieuse. Responsables politiques, acteurs de la société civile et jeunes mobilisés ont échangé pendant plusieurs heures sur la contribution de la jeunesse dans la quête de la paix à l'est de la RDC. Prenant la parole, le gouverneur du Sud Kivu a tenu à saluer l'implication de la jeunesse dans la défense du pays.
83% des militaires et de nos jeunes Ouazalènes qui se battent au Sud Kivu sont des jeunes issus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo.
En clôturant le travaux, le président du conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu, Pascal Tambouka, a dévoilé un plan stratégique pour accompagner l'action de jeunes, un document structuré autour des 6 axes prioritaires.
C'est un plan qui retrace 6 axes et qui va... Et ce plan comprend d'abord l'axe sécuritaire, ça montre comment l'aspect sécuritaire, nous les jeunes, nous devons nous approprier et montrer comment nous pouvons contribuer, montrant que nous avons la force, montrant que nous ne sommes pas une jeunesse qui se plaint, une jeunesse qui agit et qui n'attend pas demain pour agir.
Ces forums attend ainsi sensibiliser et mobiliser la jeunesse congolaise autour de son rôle essentiel dans la consolidation de la paix et les renforcements de la cohésion nationale en RDC.
Et dans l'actualité du jour, un mot sur les ramadans. Depuis le 18 février, les musulmans du monde entier observent ce mois sacré marqué par le jeûne, la prière et la sanctification, l'un des 5 piliers de l'islam. Au Maniema, une bonne nouvelle accompagne cette période spirituelle. Les prix des denrées de première nécessité restent stables. Bananes, patates douces, manioc, sucre, arachides, autant des produits essentiels qui permettent aux fidèles de rompre le jeûne sereinement chaque soir. Un soulagement pour la communauté musulmane. Reportage signé Florence Kizalunga.
Selon le femme musulmane que nous avons rencontré, contrairement aux autres années où le prix de presque toutes les denrées alimentaires de première nécessité était à la hausse, cette année, c'est le contraire. Sur le marché, les prix sont restés stables, chose qui enchante les femmes musulmanes qui affirment n'avoir pas de difficultés pour préparer l'iftar, le repas de rupture de jeûne au coucher du soleil pendant le ramadan. L'une d'elles témoigne.
Et nous remercions Dieu. Après la prière du dimanche, nous achetons les maniocs, les bananes, les arachides pour mettre dans le foutari. On achète encore la farine de maïs, du sucre pour faire la bouillie. Nous continuons toujours à remercier Dieu car tout est bien. Les bananes sont à la normale comme avant. Les maniocs aussi, nous achetons au prix abordable. Les sucres également. Au passé à ce mois, il y aurait
Sachez que le mois de Ramadan est un moment de générosité, de compassion et de dévotion, transformant la faim en empathie. Les soirs après la prière, assis sur des nattes, les fidèles musulmans communient avec tout le monde. Kindo. Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Dans la province de la Tchopo, le cacao confirme sa bonne santé malgré les obstacles. L'Alliance productive de Kisangani a présenté hier son bilan annuel. 2 ans seulement après la mise en place des plantations, 28 tonnes de fèves ont déjà été exportées. Un signal fort pour l'économie locale. Mais tout n'est pas rose. Le coordonnateur dénonce la présence d'une véritable mafia administrative qui freine les longs de la filière. Pour en savoir plus, direction Kisangani où Jacques Moukonkole nous donne les détails.
C'est un bilan qui redonne espoir aux acteurs agricoles de la région. Hier, face à la presse, l'Alliance productive de Kisangani a affiché ses chiffres. 28 tonnes de cacao produites et exportées en 2025. Pour Dominique Kassimba, coordonnateur de la structure, cette première étape réussie ouvre la voie à des ambitions plus grandes.
Tout ce qu'on a déjà mis en place et ça va nous permettre d'ici 2030 d'être en mesure d'exporter ou de produire autour de 1000 tonnes de cacao.
Mais cette réussite est menacée par un climat des affaires étouffant. Dominique Kassimba pointe du doigt la multiplicité des taxes et plaide pour une solution concrète, la centralisation des paiements.
On ne peut pas avoir un bon climat des affaires si les opérateurs économiques ou les producteurs doivent toujours faire face à une multitude de taxes qu'ils ne parviennent pas à retracer. On demande toujours d'harmoniser les taxes de l'État, de ne pas nous matraquer avec des multitudes de taxes. Enfin, ça va vraiment décourager l'État et tuer les secteurs.
Enfin, le coordonnateur a profité de ce point de presse pour lancer un cri d'alarme. Il dénonce une mafia orchestrée par un service effectif se revendiquant de la présidence de la République. Une structure qui excelle dans les tracasseries et que les autorités, tant provinciales que nationales, sont appelées à démanteler de toute urgence. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
En Ituri, un nouveau symbole de paix vient de voir le jour. Vendredi dernier, les communautés du groupement de Tiré, en périphérie sud de Bounia, ont reçu le marché de la pacification construit par l'organisation. Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Cet espace est pensé comme un lieu de rencontre et d'échange pour renforcer la cohabitation pacifique entre communautés. Une initiative accueillie avec satisfaction par les bénéficiaires. Martial Kizabiamungu nous en dit davantage.
Construit dans le cadre du processus de paix et de la stabilisation en Kora d'Ituri à la demande des autorités locales, le nouveau marché de Tséré est un signe de l'accalmie qui règne dans cette zone jadis victime des exactions des groupes armés. Selon le chef de sous-bureau de l'OIM Bounia, Issoufou Kosikoye Moussa, cet ouvrage va renforcer la cohabitation pacifique entre communautés locales jadis séparées par des conflits identitaires. Au nom des communautés bénéficiaires, le chef du groupement Tséré, Zamundu Batagura, a déclaré que ce marché va faciliter l'intégration des populations riveraines et renforcer le tissu économique local. Il appelle les populations des différentes communautés à s'approprier ce projet. Que tout le monde arrive au marché de pacification des Tséré. Nous voulons que nos frères des Kunda, des Balazana, les mamas marchandes de la ville de Bounia arrivent dans ce marché de pacification des Tséré et puis sans distinction. Pour la redynamisation des activités commerciales, les marchés sera opérationnel 3 fois par semaine, indique le chef du groupement de Tséré. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Renforcer la santé maternelle et néonatale en RDC pour réduire le taux de mortalité dû aux complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. C'est l'objectif fort, urgent et plus que jamais nécessaire du projet Bomoya Mama Namwana, la vie de la maman et de l'enfant. Un programme ambitieux lancé samedi à Kinshasa par le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, en partenariat avec le Conseil National de la Couverture Santé Universelle et la Fondation Vodacom. Dans un pays où, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, 4 femmes meurent encore chaque heure en donnant la vie, l'enjeu vital. Avec cette initiative, le gouvernement veut accélérer la gratuité de la maternité, renforcer les soins néonataux et avancer concrètement vers les objectifs de développement durable d'ici 2030. Des actions ciblées, des solutions annoncées, mais un défi immense demeure. Le représentant pays de l'UNFPA, Alain Akpondi, salue les efforts conjoints du public et du privé, tout en rappelant qu'il faudra aller encore plus loin pour changer réellement les quotidiens des femmes congolaises. On l'écoute au micro de Jude, Mister Bilanda.
Comment parler de progrès et de justice sociale et surtout de la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 avec la volonté commune de la communauté internationale de réaliser un monde dans lequel personne n'est laissé de côté. Et comment pouvons-nous atteindre ces objectifs si les femmes continuent de mourir en donnant la vie? La santé maternelle n'est pas seulement une responsabilité du gouvernement ou des partenaires techniques et financiers. C'est aussi un investissement dans le capital humain avec un retour d'investissement clair et certain pour la croissance économique et l'avenir du pays. Ainsi donc, unissons nos forces pour que chaque naissance ne soit plus un risque de mort, mais une promesse de vie.
Et pour rappel, en RDC, au moins 23 nouveaux-nés meurent chaque jour des complications liées à la naissance, selon l'Organisation mondiale de la santé. Ce week-end à Kinshasa, un pas de plus vers la modernisation du commerce extérieur en RDC, l'autorité des régulations et de contrôle des assurances, l'ARCA, et la société d'exploitation du guichet unique du commerce extérieur, Ségus, ont signé un nouveau protocole d'accord, objectif booster la digitalisation des procédures, sécuriser davantage les opérations d'importation et renforcer la transparence dans tous les circuits du commerce extérieur. Jocelyne Moussaou et Kaki Akiewa ont suivi la cérémonie pour nous. Voici le reportage.
À travers ce protocole, l'ARCA et le Ségus entendent renforcer l'échange d'information et la coordination entre leurs institutions afin d'intégrer davantage la dimension assurantielle dans les procédures du commerce extérieur. Selon le directeur général de l'ARCA, cette démarche s'inscrit dans la vision du gouvernement qui mise sur la dématérialisation pour moderniser l'administration publique et améliorer la transparence dans les opérations économiques. Pour l'ARCA, ce protocole a pour but de renforcer les échanges d'informations et la coordination entre les deux institutions. Ce rapprochement avec le Ségus permettra aussi de renforcer le contrôle des assurances liées aux marchandises importées et de lutter contre l'évasion des primes d'assurance. Écoutez Alain Kanida, directeur général de l'ARCA.
L'ARCA, régulateur du secteur des assurances, veille également et surtout à faire respecter l'esprit du code des assurances à travers la lutte contre l'évasion des primes d'assurance et le contrôle scrupuleux des assurances rendues obligatoires, dont l'assurance des facultés à l'importation.
À travers ce partenariat, l'ARCA et le Ségus espèrent ainsi contribuer à l'amélioration du climat des affaires en import-export en République démocratique du Congo.
6 mars, le monde célèbre la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. À l'occasion de cette journée au Kasaï central, le coordonnateur provincial de l'organisation Force Dark Reflex Phare qui œuvre dans l'encadrement des enfants lance un appel clair aux parents, surveiller de près les contenus que leurs enfants consomment à la radio et à la télévision. Pour Badi Chibassou, cette vigilance est essentielle pour garantir une bonne éducation et favoriser l'épanouissement des plus jeunes. Il s'est confié au micro d'André Katendinga Lamouloumé.
Un enfant est un futur dirigeant de ce pays, voire même du monde entier. Il a droit à une éducation, il a droit à une orientation responsable. Il y a ce que nous appelons technologie de l'éducation, mais lorsqu'on met l'accent sur la radio et la télé, on sait que à la télévision, il y a des leçons que l'enfant peut apprendre. Et à la radio aussi, il y a des leçons que l'enfant peut apprendre. Je conseille aux parents, comme le premier orientateur de son enfant, d'être responsable. Lorsque l'enfant est devant, il faut savoir qu'il y a quoi comme série, il y a quoi comme leçon, parce qu'on ne peut pas donner du n'importe quoi à l'enfant de suivre là où il n'y a pas une leçon qui tire à son profit.
Actualité internationale.
À l'occasion de la journée internationale des femmes, le secrétaire général de l'ONU tire la sonnette d'alarme. Il faut accélérer et vite pour garantir l'égalité devant la loi à toutes les femmes et filles. Le 8 mars, placé cette année sous le thème « Droit, action et justice », rappelle une réalité dure. Malgré les avancées, les femmes restent loin d'être égales devant la loi. Et si le rythme actuel continue, il faudra 286 ans pour combler ces inégalités juridiques. Antonio Guterres met le chiffre sur la table. Dans le monde, les femmes ne disposent que de 64% des droits reconnus aux hommes, des discriminations qui touchent tous les aspects de la vie. Dans certains pays, les femmes ne peuvent ni posséder des biens, ni demander le divorce, ni même accepter un emploi sans l'autorisation de leur mari. Et dans plus de 40 pays, le viol conjugal n'est toujours pas considéré comme un crime. Le secrétaire général met aussi en garde contre un retour en arrière sous la pression de l'autoritarisme et de l'instabilité politique. Certains droits, notamment ceux liés au travail ou à la santé sexuelle et reproductive, sont menacés.
L'invité.
À Goma, le collectif des associations féminines pour le développement, le CAFED, a célébré mercredi plus de 80 personnes engagées pour la promotion des droits des femmes au Nord Kivu. Un combat mené depuis plus de 30 ans et étroitement lié au plaidoyer pour une paix durable dans la province. Pour la présidente du CAFED, Isabelle Pendeza, l'urgence est claire. Les femmes doivent être pleinement associées à tout le processus de paix. Elle est notre invitée aujourd'hui dans cet entretien conduit par Rosalie Zawadi.
Madame Isabelle Pendeza, bonjour.
Bonjour Madame Rosalie Zawadi.
Pourquoi cette cérémonie cette année?
Le CAFED s'est engagé depuis 1993 dans la promotion des droits de la femme et de l'enfant. Et beaucoup plus, c'était l'occasion pour nous de couronner les efforts de ces militantes, de ces femmes leaders qui ont eu à s'investir, à militer malgré les différentes circonstances pour la promotion des droits de femmes mais aussi pour la protection des enfants. Aujourd'hui, on a jugé bon qu'il fallait célébrer le courage, la résilience de ces femmes, mais aussi à côté de ces femmes, il y avait deux hommes engagés. Nous avons donné des diplômes de mérite à 86 personnes. C'était pour nous vraiment une occasion de partager, de lutter contre ces conflits qui circulent souvent, le conflit intergénérationnel, où c'était pour nous la question et surtout l'occasion de fédérer les efforts. La génération montante et les femmes leaders qui nous ont montré les chemins, qui nous ont ouvert la voie, en fait, et qui ont prôné à haute voix le droit de femmes.
Sur ces parcours de trois décennies, qu'est-ce qu'on retient comme acquis?
Ce qui est vrai, on retient plusieurs choses, plusieurs réalisations, parce qu'aujourd'hui, avec le courage de ces femmes, dans la province du Nord Kivu, l'implication de femmes dans la recherche de la paix, dans la résolution de conflits communautaires, dans les dialogues communautaires, est manifestée depuis des années. Et aujourd'hui, c'était vraiment un moment d'écouter ce que les femmes leaders qui ont commencé avec la lutte ont eu à faire à ce moment. C'était quoi les défis, c'était quoi les réussites, c'était quoi l'éducation à nous donner aujourd'hui en tant que nouvelle génération ou génération montante.
En voyant les chemins parcourus 30 ans durant, est-ce qu'on peut dire que la lutte pour les droits des femmes a porté des résultats ou alors les droits des femmes sont plus bafoués aujourd'hui?
Exactement, nous pouvons parler de deux choses au même moment parce que avant les femmes n'avaient pas le droit même de s'exprimer. Les femmes n'avaient pas droit de parler en public, les femmes n'avaient pas droit à l'éducation, les femmes n'avaient pas droit à manger sur la même table avec les hommes, les femmes n'avaient pas le droit même de progresser en fait. Mais aujourd'hui, quand même avec les efforts fournis, beaucoup de femmes aujourd'hui sont finalement dans les instances de prise de décision. Je ne dirais pas qu'on est parvenu à relever tous les défis auxquels les femmes font face. Mais on ne peut pas dire que là où les femmes étaient il y a 10 ans, on peut dire qu'il n'y a rien n'a été fait. Beaucoup de choses ont été faites. Aujourd'hui, nous avons la loi sur la parité, nous avons la loi sur les violences sexuelles, nous avons différentes lois qui protègent la femme. Mais nous n'avons pas à oublier aussi que malgré ces lois, il y a toujours des défis. Parce que nous n'avons pas besoin seulement que ces lois soient écrites, mais nous avons besoin que ces lois soient réellement pratiquées, en fait, dans les quotidiens de femmes. Nous avons aujourd'hui un problème que nous devons vraiment dire. Les femmes doivent participer dans le processus de paix. Quand il y a conflit, les femmes et les enfants restent les premières victimes. Les femmes doivent être aussi sur la ligne, au même titre que les hommes. Parce que parler des questions de paix, parler des questions de la participation de femmes, parlant des questions de l'émancipation de femmes, les femmes doivent elles-mêmes en parler.
Et quel message avez-vous à adresser aux femmes du Nord Kivu ou de l'Est de la RDC aujourd'hui?
Aux femmes de la province du Nord Kivu, le premier message, que ces femmes ne puissent pas baisser les bras, que ces femmes ne puissent pas abandonner. Rien ne se fera sans nous. Aucune solution ne sera durable sans l'implication de femmes. Et donc, nous devons nous battre, nous devons rester résilientes, nous devons renforcer nos compétences pour que la voix de la femme soit réellement écoutée et prise en considération. Que les femmes ne puissent pas être ces mâts de fleurs qui vont embellir les tables sur lesquelles les hommes vont prendre des décisions pour nous ou pour les femmes. Mais les femmes doivent être là comme des actrices au même pied d'égalité comme des hommes qui sont nos frères, qui sont nos pères, qui sont nos homologues.
Madame Isabelle Pendeza, je rappelle que vous êtes la présidente du collectif des associations féminines pour le développement. Honore qui vous, merci.
C'est moi qui vous remercie, Madame Rosalie.
Merci à Isabelle Pendeza d'avoir été notre invitée, d'avoir rappelé avec force et sensibilité l'urgence d'associer les femmes à tout le processus de paix et un combat mené sans relâche depuis plus de 30 ans au Nord Kivu. Merci de votre fidélité. Vous venez d'écouter votre journal du soir présenté par Gisèle Cage avec une mise en onde signée Dieudonné Nyangasa à la coordination juive de Mister Bilanda. Pour aller plus loin, retrouver nos contenus complets, actualisés et accessibles à tous. Rendez-vous sur nos plateformes digitales et sur notre site web Radio Okapi, la radio de la paix. Une information sûre, vérifiée pour chacun de vous. Très bonne soirée.